Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Il est 8h31.
Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et ce matin, notre invitée est Soizic Perrot. Elle est vice-présidente du département du Morbihan. Elle est en charge du tourisme, de l'habitat et du logement. Elle est également déléguée des Républicains dans la 3e circonscription du Morbihan, circonscription de Pontivy. Elle est venue de Pontivy pour être ce matin au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour à vous dans les belles Côtes d'Armor.
Voilà. Et dans les studios qui, pour l'instant, sont un peu poussiéreux, hein, faut bien le dire, de Bretagne 5. Soizic Perrot, vous allez faire votre rentrée vendredi, rentrée politique à Pontivy. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu nous parler justement de politique ce matin. Je le disais en commençant, vous êtes délégué des Républicains dans cette 3e circonscription de Morbihan. Les Républicains, ça a beaucoup tangué ces temps derniers.
Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un parti politique, c'est une famille politique dont je suis militante et d'ailleurs première des militantes en tant que déléguée de circonscription depuis 2008, avec des hauts et des bas. Mais je pense que la constance, la persévérance, c'est aussi ce qui permet de garder la tête haute. Voilà.
Alors, les Républicains existent toujours, mais ils ont, aux dernières élections, vu leur rang un petit peu s'éclaircir avec ces deux forces d'opposition à l'Assemblée nationale, à savoir l'Union de la gauche, la NUPES, hein, comme on l'appelle, et également la droite, l'extrême droite, le RN, qui a pris beaucoup de place aussi dans l'hémicycle, et troisième force, en face des Républicains, la majorité présidentielle. Comment exister dans cette configuration?
Alors, le paradoxe, c'est que très concrètement, les Français, et pour notre cas, les Morbihanais, n'hésitent pas à nous faire confiance aux élections locales. Donc nous sommes bien présents, et au contraire, bien présents dans les mandats locaux, dans les territoires. On le voit aussi au Sénat, où on a une majorité de députés, de sénateurs, les Républicains. Mais bien sûr, dans nos territoires, la majorité des élus locaux sont de droite.
Est-ce que justement la politique aujourd'hui, elle se fait plus sur le territoire, sur les territoires, que finalement à Paris?
C'est pas aujourd'hui, c'est en fait cette forme de connexion qu'on doit absolument avoir sur les territoires avec le local. On parle de cumul des mandats parce qu'on l'a décrié, parce qu'on l'a caricaturé, mais je pense qu'il faut nécessairement, j'entendais d'ailleurs en venant de Pontivy ce matin, un ancien ami de l'UMP, mais qui est toujours bien sûr un ami, Carlo Olive, qui proposait justement le cumul des mandats pour entre maire et député pour les villes de moins de 20 000 habitants. Je pense que c'est important d'avoir cette connexion. Alors effectivement, Emmanuel Macron a dénoncé tout l'ancien monde avec des vieilles caricatures. Moi, je crois au contraire que cette connexion est très importante. Et je crois juste pour ça à la décentralisation.
Alors on va en parler de cette décentralisation qu'on évoque depuis le général de Gaulle, hein, donc ça nous rajeunit pas. Décentralisation qui a du mal finalement à se faire. On a eu la loi de fer et puis on a eu beaucoup de pouvoir donné aux régions, de pouvoir, mais souvent sans l'argent qui va avec.
Bah, très concrètement, la décentralisation, alors effectivement, il y a des paradoxes aussi, beaucoup d'annonces de la part du président et du gouvernement. Mais très, très clairement, sur l'ancien mandat, on a eu la perte de recettes fiscales pour les communes, même si elles ont été compensées par des dotations de l'État. On pense à la taxe d'habitation, on pense à la CVAE. Effectivement, ça rend dépendant de l'État. Et donc ça rend les élus plus docile vis-à-vis des préfets et puis du gouvernement. Donc on ne peut pas parler de décentralisation, on ne peut pas parler de saine émulation des collectivités. Parce que la droite, c'est quoi? La droite, c'est la bonne gestion des deniers publics. On a des dépenses qui s'envolent. La droite, c'est aussi de la rigueur, c'est aussi des règles du jeu. On le voit en termes d'immigration. Et nos territoires n'en sont pas épargnés. Aujourd'hui, il faut des règles du jeu pour des personnes qui ont envie de s'intégrer, qui ont envie de réussir en France. Mais avec quelles règles du jeu? Aujourd'hui, on ne peut pas se dire... le président de la République a été élu, je respecte cette élection. D'ailleurs, je l'ai dit, je le redis, j'ai voté pour lui au second tour de la présidentielle, mais ça n'oblige pas à la complaisance et à ne pas dire ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, la confiance, alors on entend les grands discours, et d'ailleurs, je pense qu'il y a une forme d'excellence du président dans cette partie de bien parler, de séduire, mais aujourd'hui, il y a un passage aux actes qui doit être nécessaire, et notamment sur la confiance aux collectivités. Il y a une personne qui en a beaucoup parlé, c'est le président des maires de France, David Lisnard, que je soutiens aussi dans son association Nouvelle Énergie. Je pense que c'est aussi des gens qui sont dans le bon sens, dans le pragmatisme.
Alors vous disiez à l'instant, Soazic Perreault, que la droite, c'était la bonne gestion. Quel regard vous portez sur la gestion, justement, du président de la République, du gouvernement actuel? Alors avec des crises, hein, on a eu la crise sanitaire, hein, dont on n'est pas tout à fait sorti, et puis cette crise économique qui est liée à la guerre en Ukraine, qui nous tombe dessus. Il y a eu le quoi qu'il en coûte, et puis aujourd'hui, il faut aider les ménages les plus modestes qui ont du mal à s'en sortir. Quel regard vous portez là-dessus?
Le regard, il est effectivement, on a subi une période sans précédent avec la crise Covid où le gouvernement est intervenu à juste titre pour soutenir bien sûr l'économie, pour soutenir les Français le plus sur le bord du chemin. Mais on est des dépenses qui sont aujourd'hui hors de contrôle, hors Covid. Hors Covid, on va arriver à un niveau de dépenses publiques qui n'est pas tenable. On entend des annonces successives. On a été 5 ans sans réforme, qui sont d'une absolue nécessité si on veut sauver notre modèle social. Je ne crois pas à la distribution. Enfin, je ne suis pas socialiste. Je ne crois pas à la distribution. Je ne crois pas à l'assistanat non plus. Je sais qu'on ne doit laisser personne sur le bord du chemin, mais il y a des réformes qui vont nécessiter beaucoup de courage et de passer des paroles aux actes. Et c'est surtout ce que je reproche dans les contradictions qu'on a entre aujourd'hui avec le président de la République.
Alors les réformes, le mot est lâché, réforme du régime de retraite, réforme également du régime d'assurance chômage. Ça ne se fait pas sans vague, il y a déjà plusieurs manifestations, plusieurs mouvements sociaux qui sont prévus en fin de mois. Vous dites que ces réformes sont nécessaires, mais est-ce que vous les voyez comme le président de la République, comme le gouvernement veut les voir appliquer, ou est-ce qu'il y a d'autres chemins, d'autres voies?
Enfin, le mal, il est connu. Hein. Ça a été une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. C'était un sujet fort de nos campagnes électorales, nous, à droite, sur le fond, sur le programme. C'est pas ce qui nous a d'ailleurs été reproché, le programme. Hein. C'est surtout l'image, ce qui nous a été reproché. Jamais le programme. Parce que le fond, on a toujours cette crédibilité et ce sérieux. Moi, je l'entends sur le terrain. Oh, on reproche pas le programme, mais... Voilà, on a une sévérité sélective. Sévérité sélective. On a des exigences aujourd'hui avec la droite qu'on n'a pas avec aujourd'hui la majorité présidentielle. Les réformes, elles sont nécessaires. C'est une absolue, effectivement, un chemin nécessaire si on veut conserver ce modèle social. Effectivement, on doit allonger l'âge de départ à la retraite. Progressivement, il y a eu des débats qui ont déjà été faits à l'Assemblée nationale, au Sénat. Les remèdes, ils sont connus. Et donc aujourd'hui, il nous faut juste du courage pour les appliquer. Alors la rue, c'est la France. Hein. Ça fait partie de... Mais le président de la République a été élu. Donc aujourd'hui, à lui de trouver le chemin. Mais il y a aussi des contradictions dans sa majorité. Mmh. Ce fameux « en même temps », l'empêche peut-être d'avancer clairement.
Alors la droite, j'y reviens, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à droite? Alors vous disiez que ce n'est pas le programme, c'est les représentants, c'est une ligne de conduite qui s'est un petit peu éloignée de l'origine?
C'est vrai que, je l'ai dit parce que j'étais à la rentrée des cadres Les Républicains à Paris il y a 15 jours, et je l'ai dit très clairement, moi je n'ai pas l'habitude de mettre la poussière sous le tapis, je fais partie de cette génération turbulente, j'assume complètement, il en faut des turbulents parce que c'est ce qui permet...
Vous êtes connu pour votre franc-parler.
Oui, mais en même temps le franc-parler c'est aussi ce qui fait gagner aussi le Rassemblement National. Parce que, alors sans être populiste bien sûr, moi je n'aime pas le discours de la radicalité, pour moi qui est une forme de confort intellectuel, c'est facile de dire tout est noir ou tout est blanc. Cette radicalité-là, quand on a une expérience d'élu, pour ma part, depuis 2014, on ne peut pas avoir un discours radical. Il faut toujours trouver ce chemin. Cela dit, je le dis les choses, dans notre famille politique, on a eu un problème d'image, mais c'est un problème aussi des partis. On a ringardisé le parti politique. Donc effectivement, on a une refondation profondes à avoir. On a un inventaire à faire. Et puis, pas nous enfermer que sur les questions d'identité. Mmh. On n'est là que sur des questions d'identité, d'autorité.
C'est un peu le credo d'Éric Ciotti, d'ailleurs.
Oui, ça fait partie de sa ligne. Sa ligne, il en faut. Mais il n'y a pas que ces questions d'identité. Il y a aussi ces questions de société. Alors moi, je ne suis pas progressiste, mais on a aussi incarné cette droite moderne. Enfin, moi, je suis une femme dans mon temps. Je suis une maman. Il faut aller vers cette modernité.
Il faut coller finalement au monde d'aujourd'hui avec beaucoup de jeunes. Alors les jeunes, on en parle beaucoup sur cette antenne, ils viennent parfois s'exprimer, ils rentrent en politique, parfois certains quittent la politique, mais ils s'engagent pour des causes, pour le climat, pour des causes plus personnelles. Ils s'engagent pas forcément en politique.
Et pourtant, moi, je suis enseignante de lycée professionnel, alors même si je suis en disponibilité désormais, mais les jeunes aiment parler de politique, mais politique au sens noble du terme, s'intéressent au sujet, ont énormément d'idées, et je pense que il va falloir gagner ce cœur des Français, mais des jeunes, et il va falloir retravailler. Mieux parler, je ne sais pas, avec peut-être plus de pédagogie, expliquer pourquoi.
Alors, LR, on va revenir à LR. Pardonnez-moi, je n'ai pas fait une fixation, mais il va y avoir un nouveau président, peut-être une nouvelle présidente, je ne sais pas qui se présentera. Vous n'en avez pas fait mystère, vous soutenez Bruno Retailleau. Pourquoi soutenir particulièrement Bruno Retailleau?
Après, moi, je respecte tous les candidats. J'ai aussi beaucoup d'amitié pour Aurélien Pradier. Il incarne cette droite sociale qui me plaît bien. Mais je me suis aussi engagée auprès de Bruno Retailleau par fidélité, parce qu'il a une expérience qui sera nécessaire pour refonder notre parti. Il sera une expérience nécessaire avec un changement d'image profond, avec la volonté aussi de Bruno Retailleau d'intégrer une nouvelle jeunesse, de nouveau des idées neuves et de la nouveauté dans notre parti, avec aussi la volonté de changer de nom. Et ça, je pense que c'est aussi une nécessité absolue pour notre image.
Alors j'allais y venir, vous m'avez devancé, est-ce que justement il faut faire, alors non pas table rase du passé, mais vraiment repartir sur les bases, j'allais dire les bases communes de la droite.
Les bases communes de la droite, oui, apporter des idées neuves, ça ne veut pas dire effacer toutes nos valeurs, notre histoire, ce qui fonde aussi, ce qui nous rassemble. Effectivement, il faudra retravailler, mais je pense que cette crédibilité, c'est aussi par la constance de ce qui reste, ça sera notre clé de la réussite, je pense.
Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, a réuni le CNR, le Conseil national de la Refondation, qui sonne un petit peu Conseil national de la Résistance. Pour vous, Soizic Perrault, qui êtes de droite, la Résistance et aussi les idées du général de Gaulle, est-ce que ça vous a gêné?
Moi, je suis une femme du présent, donc je regarde pas le passé, mais moi, ce que j'entends surtout, c'est que ça sonne creux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un énième comité Théodule pour ne rien faire et pour parler sans se payer de mots, quoi, finalement, sans agir. Effectivement, les références au gaullisme, aujourd'hui, on a galvaudé aussi, parce que tout le monde se réclame du gaullisme social.
Il l'avait dit lui-même, d'ailleurs, le général de Gaulle, un jour, tout le monde sera gaulliste.
Voilà. Mais on essaye d'être pragmatique, mais le gaullisme, c'est aussi du bon sens. Et parfois, on voit que on en manque.
On manque de bon sens. Est-ce qu'on manque de bon sens aussi à droite, parfois, aux Républicains?
Bien sûr, peut-être que la preuve, quand on a un échec aussi cuisant que le nôtre en 2022 pour l'élection présidentielle, effectivement, on a dû manquer de quelque chose, parce que ça a été un échec qui a été cuisant. Ça a été une épreuve encore très difficile. Pour le mouvement, pour les militants que nous sommes. Mais bon, si je suis là et encore fière d'appartenir à cette famille politique, ça veut dire qu'il faut encaisser.
Alors, il faut encaisser, il faut avancer, évidemment. Avancer sur les grands dossiers, on parlait tout à l'heure des réformes, mais il y a aussi des dossiers, j'allais dire presque plus chauds également, et là on en a parlé aussi, le dossier, le volet social. Alors vous disiez, Soizic Perrault, vous n'étiez pas pour l'aide à tout craint, mais aujourd'hui on a des ménages qui ont des difficultés à payer leur électricité, à payer leur carburant. Le gouvernement apporte des aides, mais vous le dites, hein, c'est pas forcément la bonne voie. Comment naviguer un petit peu à vue, si vous me permettez, dans cette époque un peu troublée?
Concrètement, moi, j'étais hier après-midi en tant que vice-présidente au logement et à l'habitat, mais aussi en tant que présidente de l'ADI, l'Agence de l'information et du logement. On était sur le dispositif Morbihan Solidarité Énergie avec tous les partenaires qui aident les ménages les plus précaires, parce qu'on porte l'aide à la précarité, à la lutte contre la précarité énergétique. Comment est-ce qu'on aide concrètement les ménages? Mais ça date pas d'hier. Voilà, c'est des actions concrètes que l'on mène au quotidien pour soutenir les ménages et dans la baisse des dépenses énergétiques et surtout dans le maintien de leur pouvoir d'achat, parce qu'on voit qu'il y a des situations aujourd'hui qui sont très importantes. Et moi, je crois que par nos mandats d'élus locaux, il n'y a pas le national qui décide de tout. Moi, je crois qu'au contraire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout se fait à la base, sur nos territoires, avec des actions qui sont très concrètes. Quand on rénove, on engage la rénovation énergétique de nos bâtiments, de nos collèges, quand on aide les particuliers à améliorer leur habitat, quand on améliore la distribution de l'eau, quand on protège nos espaces naturels sensibles. Voilà, des questions, par exemple, écologiques qui sont au cœur aussi du débat actuel, qui sont concrètes.
Alors le local, ce sont les départements, c'est aussi la région. Ici en Bretagne, il y a une région assez volontariste dans plein de domaines. Alors vous me direz peut-être pas assez dans plein de domaines. Alors justement, on a ce domaine de l'énergie aujourd'hui où la Bretagne veut être un petit peu fer de lance de l'énergie, du développement durable et de l'énergie verte. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que, comme dans votre parti des Républicains, certains s'interrogent en disant qu'il fallait peut-être quand même conserver un peu le nucléaire.
J'ai beaucoup de recul sur la majorité socialiste à la région Bretagne, même si j'ai du respect pour Loïc Chesne et Gérard, puisque on fait partie de cette même génération d'hommes et de femmes engagés pour la Bretagne. Alors, comme ils aiment dire, pour les Bretonnes et les Bretons, pour tous ceux qui font la Bretagne. Mais j'ai aussi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de paroles. Je le vois d'ailleurs dans l'engagement qui est fait dans les lycées, puisque j'étais enseignante de lycée professionnel. Et aujourd'hui, quand je vois les passoires thermiques, par exemple, et aucune rénovation énergétique qui n'a été engagée, clairement dans certains lycées. Quand je vois la fracture numérique, notamment, quand je vois la fracture aussi pédagogique, l'achat de livres, par exemple, aujourd'hui, pour nos jeunes. Ce qui fait que, ce qui fait la mixité sociale en Bretagne, ce qui fait aussi le mérite en Bretagne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Et je l'ai dit régulièrement au président Chesne et Girard. Voilà, il ne faut pas se contenter de mots. Il y a des dépenses, il y a des choix politiques qui ont été faits que je ne soutiens pas. Voilà.
Alors il y a le transport aussi en Bretagne, c'est une grande question. On parlait tout à l'heure des coûts de l'énergie, évidemment, des coûts des carburants, même si ça s'est un peu tassé avec les aides ces temps derniers. Voilà, ça ne va pas aller en s'améliorant, on s'en doute. On n'a pas assez développé le ferroviaire en Bretagne, ça a été tout un grand débat. La région, là aussi, veut s'investir dans le ferroviaire. Alors il y a encore des lignes de chemin de fer, on pense à la ligne nord-sud, hein, Saint-Brieuc-Auray, d'ailleurs qui nous permettrait d'aller jusqu'à Quiberon avec le tire-bouchon. Ça c'est pour le côté ferroviaire de la chose. Mais est-ce qu'il faut développer réellement ces lignes de chemin de fer ?
Alors juste pour la ligne, c'est un sujet que je connais bien puisque c'est moi avec l'Office de tourisme de Pontivy Communauté avec qui avons retravaillé sur l'ouverture du train touristique entre Pontivy et Lambelle-Cambaure, et on travaille justement sur l'ouverture entre Pontivy et avec... Auray, avec la CFCB et puis bien sûr SNCF Réseau. Je pense que là aussi, il y a beaucoup aussi de bavardage. Effectivement, aujourd'hui, on se rend bien compte, mais même qu'avec une ligne, une ferroviaire intérieure, même si ça plaît au grand public d'entendre train. Mais dans la réalité, c'est du temps énorme, c'est des investissements qui sont énormes. Alors, on a des routes qu'on est en train de développer, qu'on est en train d'améliorer. On peut très bien imaginer aussi des bus qui circulent avec des carburants, je dirais, propres. Mais je pense qu'il faut...
On parle beaucoup d'hydrogène aujourd'hui.
Il faut plutôt aller vers ces voies-là qu'aujourd'hui réinvestir dans la rénovation de certaines lignes qui seraient pas pratiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on travaille et qu'on doit rejoindre Paris, et on a 6 heures de train pour rejoindre Paris, c'est juste impossible. Il faut être lucide et une nouvelle fois, pas se payer de mots, quoi.
Voilà, comment désenclaver la Bretagne ? Parce qu'il y a encore ce côté un petit peu enclave, même si ça va mieux.
Moi, je suis assez à l'aise pour en parler, puisque j'habite Pontivy et je suis plutôt très mobile. Moi, j'ai pas le sentiment qu'on soit enclavé. j'ai pas le sentiment qu'on soit en Gaulmier. On est près de tout. Je suis à peine 40 minutes de Vannes. Je suis à peine 40 minutes de Saint-Brieuc. Je suis à une heure de Rennes. C'est très pratique. Et aujourd'hui, les voies de circulation s'améliorent énormément. On n'est pas enclavé. On a aussi le numérique qui arrive, doucement, mais sûrement. On est sur le haut débit Pontivy, par exemple, on est connecté. Pas partout. Mais moi, je ne crois pas à l'enclavement. Quand je vois d'ailleurs certaines métropoles qui sont complètement saturées, je trouve qu'on a une qualité de vie ici, au contraire, bien plus plaisante.
Alors, j'allais y venir, Pontivy, pratiquement au centre de notre région, de la région Bretagne. J'entends la région géographique. On voit que ça se développe, Pontivy. Vous parliez de la fibre qui arrive et qui se développe. On a un territoire du centre Bretagne qui est très volontariste pour exister et qui attire aujourd'hui.
Alors vous avez parlé à la plus une des plus chauvines de Pontivienne et puis du canton de Pontivy, parce qu'on a un canton, je le dis en tant que conseillère départementale, qui est exceptionnel. On a le canal de Nantes à Bresse, le Blavet, la vallée du Blavet. On a un patrimoine bâti comme naturel, je vous le dis, exceptionnel. Napoléonville, tout le côté médiéval. Mais il y a des atouts à mettre en valeur. Et c'est d'ailleurs ce qui est un leitmotiv aujourd'hui pour moi au tourisme. Le tourisme, c'est 10% du PIB. Et aujourd'hui, c'est un facteur de développement majeur pour nos territoires. Mais on ne doit pas se reposer sur nos lauriers. Les élus locaux, les maires, les conseillers départementaux, tous les élus locaux, les conseillers communautaires, on doit, entre guillemets, mettre en sorte tous les atouts qui nous mènent à développer. Parce qu'on ne pourra pas se contenter que de belles images quand le Tour de France passe dans notre ville, parce que ce n'est pas ce qui fait venir le tourisme. Qu'est-ce qu'on met en place? Quelles sont les infrastructures qu'on met en place pour développer ces moteurs de l'économie mais social, parce que derrière, si par exemple on a 50 000 visiteurs au château, c'est autant de personnes qui visitent notre ville et qui viennent sur notre territoire plus largement.
Voilà, qui consomment, il faut bien le dire, et qui créent de l'économie. Il nous reste, allez, deux petites minutes, Soizic Perrot, ça va très vite le matin. J'aurais voulu vous entendre sur les grands sujets à venir. Alors, sujets nationaux, parce qu'il y en aura, là encore, avec LR, hein, je vous ramène à LR, hein, pardon. Mais aussi à l'échelle locale, je le disais tout à l'heure en commençant, que vous faisiez votre rentrée politique vendredi, à Pontivy précisément. Quel est le sujet actuellement sur lequel vous vous attelez, qui vous motive?
Bah, les sujets, c'est regagner la confiance. Et comme je vous le dis, regagner la confiance par la crédibilité, par notre travail. Bah, pour moi, c'est les sujets pour lesquels David Lapartient, le président du département, m'a confié des responsabilités, des délégations. Le tourisme, le logement et l'habitat, c'est des sujets, on le voit bien, qui sont transversaux, mais qui sont aussi majeurs pour faire avancer nos territoires. Et puis... Le sujet, c'est la réforme. Est-ce qu'on continue à être dans une vision court-termiste, ou est-ce qu'on se dit oui, on y va, avec du courage, on soutient les réformes qui sont une nécessité absolue pour notre pays. Et c'est pour ça que je vais continuer à m'engager au sein du parti, derrière Bruno Retailleau, parce que je pense que c'est un homme qui est à même de porter ce projet au sein des Républicains.
Et c'est aussi ces réformes, beaucoup de pédagogie, parce qu'on voit que ça passe pas, comme on dit.
Bah là, vous parlez à une enseignante, effectivement, il va falloir dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une réforme, ce n'est pas juste pour embêter les Français, c'est une nécessité absolue si on veut garder ce modèle social et si on ne veut pas que les écarts se creusent, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on sent bien que les écarts se creusent en France, et si on veut pouvoir conserver ce modèle social à la française, ce qu'a fait le général de Gaulle finalement, eh bien, il va falloir travailler, puis il va falloir faire preuve de courage surtout.
Alors, on a entendu des commentateurs, et ça va nous ramener à l'actualité, et on terminera là-dessus, Soizic Perrot, qui ont dit, oui, quand on voit la ferveur du peuple britannique derrière sa souveraine, voilà, qui gagnait sa dernière demeure, on rêverait finalement qu'en France ce soit pareil. Est-ce qu'un jour on pourrait imaginer, alors pas dans les mêmes circonstances, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que le peuple français puisse discuter, dialoguer, reprendre ce dialogue qu'on sent quand même cassé, cette société un peu fracturée?
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent une France divisée. Il y a la France qui va bien, celle d'Emmanuel Macron, la France rurale, celle de Marine Le Pen, et puis la France, je dirais, des quartiers de Mélenchon. On sent une France qui est profondément divisée. Je dirais qu'il y a même encore une autre frange, c'est celle la frange des abstentionnistes, celle qui ne s'intéresse plus. Donc c'est peut-être ça l'enjeu majeur pour les années à venir. Comment est-ce qu'on rassemble tout ce monde? Voilà. Et il y a du travail. Effectivement, il faut. Peut-être, c'est peut-être un vœu pieux, mais finalement, il faut pas être fataliste. Il faut avoir envie d'avancer vers ce chemin de réconciliation des Français.
Soazic Perrot était notre invité ce matin. Soazic Perrot, qui, je vous le rappelle, est vice-présidente du département du Morbihan, en charge du tourisme. Vous êtes donc en charge du tourisme, de l'habitat et du logement. Voilà, je vais tout remettre dans l'ordre. Et vous êtes également délégué des Républicains dans la troisième circonscription du Morbihan, la ville de Pontivy, entre autres, et le canton de Pontivy. Voilà, cher à votre cœur, on l'aura compris. Merci d'être venu en direct ce matin au micro de la matinale. Depuis Pontivy, voilà, j'aurais fait de la pub. Merci d'avoir été avec nous en direct et belle journée.
Je vous remercie aussi. Bonne journée.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.